alors, cher Laurent Cabrol, la tendance du moment, de la semaine, comment ça se passe?
Alors, la douceur, j'en ai beaucoup parlé depuis ce matin. J'ai dit que nous allions avoir des températures très douces. Mais il faut y ajouter la pluie, malheureusement. Alors, régulièrement, il y aura de la pluie. Demain, des pluies dans le nord-ouest. Mercredi, en général, de la pluie continue dans l'est. Et plutôt des pluies d'averses sur les régions proches de l'Atlantique. Jeudi aussi, des averses avec des températures très douces. 3 à 6 le matin, 10 à 12 l'après-midi. Vendredi, des pluies généralisées, 12 à 14 degrés en moyenne. Samedi, 22, hein, pas loin de Noël, de la pluie, 14, 15 degrés. Dimanche, de la pluie sur les deux tiers de la France, 15, 16 degrés. Donc nous allons avoir de la pluie, vous l'avez compris, des températures douces, vous l'avez compris aussi.
Oui, bon, c'est tout.
J'ai rien à rajouter. Votre honneur, je n'ai rien à rajouter.
Merci, Maître Cabrol. Voici l'info, Julie.
Il est 9h58 sur Europe 1. Marion Calais, bonjour.
Et bonjour, Julie. Bonjour à tous. Il joint sa voix à celle du gouvernement sur Europe 1 ce matin. Laurent Berger s'est dit favorable à l'évacuation des ronds-points occupés par les Gilets jaunes. Mais pour le patron de la CFDT, il faut le faire de façon pacifique. Selon nos informations, 350 points de blocage subsistaient samedi un peu partout en France. Et une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe détaille aujourd'hui, interview dans le journal Les Échos, avec cette précision concernant l'augmentation annoncée de 100 euros pour les salariés au SMIC. Ils seront un peu plus de la moitié seulement à être concernés, car la hausse passera par la prime d'activité attribuée en fonction des revenus du foyer. Le bilan revu à la hausse après l'attentat de Strasbourg. Une cinquième victime est décédée hier soir. Concernant l'enquête, un homme de 38 ans est toujours en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir hébergé l'assaillant la veille de l'attaque. Nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla, cette fois pour des violences le 1er mai, mais au Jardin des Plantes, il a été entendu fin novembre par les juges d'instruction. Theresa May face aux parlementaires britanniques aujourd'hui. On connaît déjà la teneur du discours de la Première Ministre. Elle lancera une mise en garde contre la tenue d'un second référendum sur le Brexit. Un rêve de petit, le bonheur encore ce matin sur Europe 1 du directeur technique du handball français Philippe Bana, invité de Nico Saliagas. Les Bleus qui ont gagné hier la finale de l'Euro à Bercy devant leur public contre la Russie et qui obtiennent du même coup leur ticket pour les JO de Tokyo en 2020. Enfin, Paris et Lyon fixés aujourd'hui à la mi-journée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tirage au sort tout à l'heure. On suivra ça évidemment sur Europe 1.
Avec plaisir, à tout à l'heure, 11h, Marion Calais.
À tout à l'heure.
Europe 1, il est 10h.
Europe 1,
9h, 11h.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, chers amis. Merci de nous rejoindre pour une exploration médicale et scientifique ce matin. On va voir ce qui se passe dans nos intestins. Si, si, vous allez l'entendre, c'est absolument passionnant. Les spécialistes eux-mêmes qualifient aujourd'hui le ventre, les intestins de deuxième cerveau. Du stress au diabète, du surpoids aux maladies neurodégénératives, on va comprendre le rôle de l'intestin, notamment dans ces pathologies. Il y a une grande expo formidable à la Cité des Sciences qui s'y intéresse en ce moment sur la base d'un best-seller, le livre d'un jeune médecin allemand vendu plus d'un million d'exemplaires en France sous ce titre étonnant, le charme discret de l'intestin. C'est ce qu'on vous propose ce matin. Un organe doté de 200 millions de neurones. On fait le tour de la question ce matin. N'hésitez pas à témoigner avec nous, Julie.
Au 39-21, on attend vos appels et on vous rappelle en plus.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et Talleyrand qui disait ceci, l'homme est une intelligence contrariée par des organes. Alors parlait-il du cœur, du cerveau ou du ventre? Ces trois organes qui en l'espèce dialoguent entre eux, et le ventre qu'on devrait plutôt nommer intestin, qui est un acteur essentiel de notre bien-être ou de nos tourments émotionnels. Bonjour Dorothée Vatinel.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition Microbiote qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Vous avez le temps, c'est jusqu'à l'été, mais allez-y, c'est très intéressant. Et Francisca Joly-Gomez, bonjour.
Bonjour.
Gastro-entérologue, professeur en nutrition, vous qui avez publié il y a quelques mois L'intestin, notre deuxième cerveau, justement, comprendre son rôle. Alors cette exposition, Dorothée Vatinel, elle ne s'intitule pas Intestin, mais Microbiote. C'est toute la vie qui règne dans nos intestins, le microbiote?
Voilà, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes que l'on a en nous et sur nous. Et avec cette exposition, on se concentre sur les micro-organismes qui sont en nous, c'est-à-dire dans le système digestif et surtout donc dans nos intestins.
Et on va voir que c'est une colonie, hein, très peuplée. Il y a une vraie vie dans notre ventre qu'on appelle donc deuxième cerveau. Depuis longtemps, vous qui êtes gastro-entérologue, Francisca Joly-Gomez, vous vous passionnez aussi pour l'intestin et sa vie incroyable.
Alors, depuis longtemps, depuis que je suis interne, en fait,
Le fait de s'occuper de patients qui ont mal au ventre et pour lesquels on n'a pas toujours de réponse oui. claire à leur donner, on se rend compte que le fait de mieux comprendre ce qui se passe dans le ventre, et ce qui est extraordinaire, c'est toutes ces nouvelles connaissances qui sont arrivées depuis 5 à 10 ans, notamment sur ce fameux microbiote, dont le mot est extraordinaire. Micro, ça veut dire petit, et biote, ça veut dire vie. Donc on est vraiment dans l'exploration et la connaissance de cet écosystème qui est en nous.
Plusieurs milliards de bactéries.
Voilà, c'est ça. Et ce matin, par exemple, je me suis mis sur mon pèse-personne et je me suis dit, tiens, en fait, dans mon poids, il y a 2 kilos de bactéries. Donc finalement, il faut considérer que, oui, on parle de milliards, mais c'est surtout un environnement très, très important. Et voilà, ça représente environ 2 kilos.
2 kilos pour un intestin qui mesure entre 3 et 7 mètres, hein, c'est quelque chose si on commence l'exploration, Dorothée Vatinelle.
Oui, alors en fait, moi, quand j'ai commencé l'exposition, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Et oui. en effet, comme dit Francisca, il est absolument incroyable. Et par exemple, si on compare les gènes de nos cellules humaines avec les gènes de nos bactéries, mm-hmm. on s'aperçoit qu'on est plus bactérien que humain, finalement. Donc quand Francisca parle d'écosystème, c'est vraiment ça. Nous sommes des cellules humaines et des bactéries, entre autres, avec d'autres micro-organismes qui vivent ensemble.
On va parler évidemment largement de ces bactéries. Il faut que vous nous reprécisiez, Francisca Joly-Gomez, quel est le rôle dans notre corps humain de l'intestin aujourd'hui, qui est la partie du tube digestif qui est entre l'estomac et le gros intestin. À quoi ça sert l'intestin ?
Alors, il nous faudrait plusieurs heures pour résumer le rôle, mais déjà le principal rôle, évidemment, c'est d'absorber ce que l'on mange. Mmh. C'est-à-dire que quand vous mangez, les aliments, va falloir les préparer, donc on va commencer à les digérer. Pour qu'ensuite, en fait, ils soient répartis dans notre organisme, et c'est dans l'intestin grêle notamment qu'il va y avoir l'absorption donc de ces aliments mm-hmm. qui vont apporter donc l'énergie à l'organisme. Mais en fait, ça c'est l'absorption, mais vous avez d'autres fonctions très importantes qui est la sécrétion d'hormones. C'est un organe qui va produire des hormones, qui est capable de produire des vitamines et qui va aussi communiquer en fait avec les autres organes et notamment notre cerveau principal pour que tout cela fonctionne en harmonie.
Tout ça avec 200 millions de neurones. 200 millions de neurones, c'est quasiment ce qu'on trouve dans le cerveau d'un chat ou d'un chien. Ça, c'est fascinant.
Absolument. Et c'est ce système nerveux qu'on appelle système nerveux entérique. On comprend bien qu'un des rôles principaux, ça va être de permettre à l'intestin de se contracter. Tout à l'heure, vous disiez, l'intestin, il mesure entre 3 et 6 mètres. Ça, c'est l'intestin grêle. Vous rajoutez le côlon, c'est quasiment 1 mètre. En fait, ce tuyau, il faut qu'il se contracte pour que les aliments soient propulsés et arrivent au bout du circuit. Donc, on a besoin de ces neurones pour se contracter. Mais on voit aussi que ces neurones, eux-mêmes, vont produire des neuromédiateurs comme la sérotonine et d'autres éléments qui vont avoir une action locale et peut-être même une action à distance.
Vous nous direz comment le stress devient un facteur important dans l'apparition de maladies inflammatoires, chroniques de l'intestin, comment justement notre environnement mental joue sur les maux de notre ventre et comment se profile cette exposition. Dorothée Vatinelle, on fait le tour du sujet ce matin. On a le temps pour que vous nous expliquiez cela de manière absolument fascinante jusqu'à 11h sur Europe 1. N'hésitez pas à nous rejoindre au 3921 si vous êtes sujet à des maux de ventre. Vous allez peut-être mieux comprendre ce qui vous arrive en plongeant dans cet univers.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. La Cité des Sciences à Paris consacre une grande exposition à l'intestin, expo intitulée Microbiote, inspirée du best-seller allemand Le Charme discret de l'intestin qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en France, traduit en 40 langues. Du coup, on fait le tour de la question sur le ventre.
Et n'oubliez pas l'intestin, notre deuxième cerveau, comprendre son rôle, livre de l'une de nos invitées, Francisca Joly-Gomez, qui est gastro-entérologue avec nous, en présence de Dorothée Vatinelle, commissaire de l'exposition Microbiote à la Cité des Sciences, jusqu'au mois d'août. Alors là, c'est idéal pour aller en famille. Au-delà de 10 ans, il faut quand même comprendre le mécanisme de tout cela. Elle commence comment l'expo, Dorothée ?
Par une énorme bouche.
Ah oui ?
Ouais. En fait, on s'est dit qu'on allait avaler nos visiteurs pour qu'ils viennent s'engouffrer dans le corps et essayer de découvrir ce que c'est que ce microbiote. Donc, comme on va parler du microbiote intestinal, on fait en première partie un petit rappel de nos intestins. Où sont-ils ? À quoi servent-ils ? Comment sont-ils ? Surtout, puisque la première partie de l'exposition, vous allez pouvoir voir des vrais organes humains Vous allez pouvoir faire une dissection virtuelle. Vous allez pouvoir
faire...
Il y a une caméra qui a filmé tout notre système digestif de la bouche à l'anus. Enfin, c'est vraiment... Voilà, vous allez tous apprendre sur votre corps et sur ensuite les différents organes du système digestif, de la salive jusqu'à l'anus. Mmh. Et puis, une fois que voilà, toutes les idées sont bien remises en place, et ben, vous vous engouffrez dans une salle qui est comme si vous rentriez dans une membrane d'intestin avec ces villosités roses qui viennent vous chatouiller. Où là, on vous apprend ce que c'est que le microbiote, donc les bactéries, mais aussi les autres micro-organismes comme les levures, les virus, les archées, des choses comme ça. Et puis, un petit détour au laboratoire pour connaître comment les chercheurs travaillent sur ce microbiote intestinal, puisque c'est quelque chose quand même de très, très assez récent comme recherche.
Oui, 5-10 ans, vous disiez, Francisca.
Voilà.
Ouais.
Et puis, enfin, les recherches depuis une bonne cinquantaine d'années, mais les découvertes grâce notamment au séquençage des gènes, c'est 5-10 ans en effet. Et ensuite, vous sortez par les fesses, puisque c'est souvent comme ça que ça se termine.
Ben il n'y a pas de tabou quand on va voir une expo du genre.
Et pour aller dans la dernière partie où on vous apprend, on vous donne des trucs pour bien entretenir ce microbiote, puisque vous avez compris le rôle important qu'il avait pour vous.
Alors, très bien. Justement, le microbiote, autrement dit, la flore intestinale, si je dois résumer, c'est ça, Francisca Joly-Gomez ?
Oui, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Mmh. Et pourquoi maintenant on appelle ça microbiote ? Parce que dans flore, il y avait quelque chose d'un peu végétal et finalement, un peu loin finalement d'une définition qui là est plus claire, où on est vraiment dans les micro-organismes vivants. Donc on parle beaucoup de bactéries, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais... il n'y a pas que les bactéries, il y a aussi d'autres éléments qui vont constituer ce microbiote, notamment les virus qu'on connaît moins bien, mais qui vont probablement devenir aussi un énorme champ d'exploration pour les années à venir.
Ça veut dire qu'on a tous en nous, dans notre microbiote, des bactéries, des virus et qu'on cohabite. Ça fait partie de notre équilibre. Il ne faut pas à tout prix penser et vouloir les chasser ou les...
Absolument, on a des bactéries, des virus, des levures même. Des fois, on a peur de ça, ces fameux champignons qui nous colonisent. Et c'est très important de comprendre que finalement, pour être en bonne santé, on a besoin de cet écosystème. Mmh. Et plus cet écosystème finalement est diversifié, c'est un mot qui est récent maintenant pour nous médecins et pour les chercheurs, on parle de diversité du microbiote.
Oui.
Moi, quand j'ai commencé mes études, mon idée était il faut détruire les cellules méchantes ou il faut détruire les bactéries qui sont méchantes. Tout ce qui est pathogène.
Bah oui, par intuition, c'est ce qu'on pourrait penser. Oui.
Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte, et c'est le microbiote notamment qui nous a appris ça, que finalement, peut-être que ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre quel est le bon écosystème. Mmh. Et donc, on se rend compte que dans beaucoup de maladies, lorsqu'on analyse le microbiote, ce qui apparaît, c'est qu'on a une diminution de la diversité. Ce n'est pas forcément qu'il y a une bactérie manquante ou une qui est en surnombre, c'est qu'il y a moins de diversité. Et donc, on a besoin d'un écosystème probablement complet et très diversifié pour être en bonne santé ou pour avoir une prévention en fait en termes de maladies.
Dans quelle maladie, par exemple, on a une diminution de cette diversité ?
Vous avez une diminution de la diversité, par exemple, dans l'obésité, dans les syndromes métaboliques, où là, on voit bien qu'il se passe quelque chose et qu'il y a vraiment un microbiote moins diversifié. Et puis finalement, on comprend que c'est comme un jardin pour lequel on a besoin d'un tas de fleurs différentes et que si on fait pousser à un moment donné qu'une seule fleur, la terre va s'appauvrir.
Mais est-ce qu'on est responsable de ça, du fait d'avoir fait la monoculture dans son jardin, par exemple ?
On est les premiers responsables.
Ah
les
oui
premiers responsables.
Avec ce que l'on mange ou ce qu'on ingère comme médicament ?
Par l'alimentation et notamment par l'alimentation lors des premières années de vie. Mmh. Puisque c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se rendre compte que même si à tout instant on a encore un rôle à jouer, on peut encore moduler un peu notre microbiote, quand même, notre signature finalement génétique bactérienne va se faire dans les premières années de vie et on dit que vers 4-5 ans, ça y est, on a un peu notre microbiote qui sera notre microbiote à nous.
Vous nous direz ce que vous recommandez vraiment aux parents qui nous écoutent notamment, alors que cette exposition nourrit aussi tout ce cheminement avec beaucoup d'interrogations. Donc vous poussez les portes, Dorothée Vatinelle, parce qu'il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup d'innovations, mais vous ne tirez aucune conclusion. Vous regardez la science aussi avancée sur le sujet.
Oui, bien sûr, parce que cette science est toute nouvelle, donc évidemment évidemment, on parle des recherches en cours, mais l'idée, c'est pour le visiteur, c'est qu'il comprenne que c'est le tout début d'une recherche et que, comme disait Francisca, ça va être, ça ne peut qu'augmenter. Et par rapport aux bactéries, la dernière partie de l'exposition, justement, quand on parle du bien-être intestinal, il y a une idée derrière ça, c'est de se réconcilier un peu avec l'image de la bactérie que l'on a, qui est souvent pathogène. Et en fait, finalement, il faut savoir que parmi toutes les bactéries sur Terre, seules moins de 5% sont pathogènes. Donc voilà, il fallait
cette exposition, cette émission pour le savoir aussi. C'est intéressant. Alors pourquoi on nous dit de réparer la flore intestinale, tous les traitements probiotiques, etc. Est-ce que c'est finalement contre-productif? Vous allez nous en parler aussi, mesdames, alors que l'on fait le tour de la question dans cette exploration de l'intestin. Plusieurs mètres ce matin explorés, ça prend un petit peu de temps. Hein. Allez, vous, Julie.
Europe 1.
On retrouve Wendy Bouchard et ses invités, Dorothée Vatinel, qui est commissaire de l'exposition dont nous parlons ce matin, consacrée à l'intestin. Ça s'appelle Microbiote et c'est à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris jusqu'au 4 août. Nous sommes aussi avec Francisca Joly-Gomez, qui est gastro-entérologue et professeure en nutrition à l'Université Paris 7, Denis Diderot.
Et on va vous dire pourquoi on considère souvent maintenant que l'intestin est notre deuxième cerveau, comment le ventre aussi devient le réceptacle de nos émotions. Mais j'aimerais, mesdames, que vous nous en disiez davantage sur la manière dont s'équilibre cet écosystème. Vous nous disiez que plus l'écosystème de la flore intestinale, du microbiote est important, mieux c'est, plus nous sommes en bonne santé. Que pensez-vous, cher gastro-entérologue, cher docteur, des traitements nécessaires et aujourd'hui, nécessaires je ne sais pas, mais en tout cas répandus pour réparer la flore intestinale, tous les probiotiques qu'on nous sert régulièrement?
Alors déjà, j'ai envie de dire, quand il y a le mot réparer ou détox, tout ça, je crois qu'il faut le mettre de côté.
D'accord.
Aujourd'hui, on ne sait pas pour un individu donné quel serait le bon microbiote.
Ah bon, d'accord.
Donc,
c'est à la carte. Ouais, c'est donc
alors, le problème, compliqué. Il est là. C'est qu'aujourd'hui, on devrait faire du à la carte, sauf que on ne sait pas vraiment pour une personne donnée quel était son microbiote quand il était en bonne santé et finalement le réparer avec quoi. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les fameux probiotiques. Donc les probiotiques, dans le mot, vous avez pro, donc c'est pour finalement aider ces organismes vivants. Et donc en fait, on va donner des bactéries, des levures qui vont venir coloniser notre intestin pendant toute la période de la prise, puis après, quand on arrête la prise, on ne retrouve plus en fait ces bactéries. Et le but est de finalement apporter des bonnes bactéries, c'est-à-dire des bactéries qui ont été étudiées au cours d'études où on voit qu'il y avait un effet bénéfique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que finalement un probiotique peut marcher chez tout le monde ou sur toutes les maladies. Donc je crois qu'il faut être aussi assez humble, puisque quand vous allez dans une pharmacie, vous allez avoir des dizaines et des dizaines en fait, de probiotiques différents. Et à chaque fois, c'est des souches, des quantités différentes. Et ce n'est pas parce qu'il y a marqué 5 millions, 5 milliards qu'en fait, il va y avoir une meilleure efficacité. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les probiotiques, ça a un intérêt dans certaines maladies où on a fait des études et on sait que telle souche marche bien, par exemple, pour telle maladie.
Ça veut dire que probiotiques doivent être ordonnancé par le gastro-entérologue, en l'occurrence, qui vous connaît bien.
Par un médecin ou même un pharmacien, puisque ça peut être délivré en fait, sans ordonnance,
c'est ça le problème,
mais qui connaissent bien en fait, la situation, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire finalement, les probiotiques, ça marche sur tout et pour tout le monde.
Est-ce que les antibiotiques, vous en parlez, j'imagine, dans l'exposition aussi, Dorothée Vatinel, les antibiotiques qui, pour le coup, sont destructeurs de ce microbiote, là, c'est nécessaire d'ingérer de la levure pour rétablir cet équilibre? Juste un petit mot encore, Francesca.
Là, vraiment, pour le coup, en effet, quand on prend des antibiotiques qui vont, même si on les prend, par exemple, pour une angine, pour une otite, ils vont quand même avoir un impact sur les bactéries du tube digestif. Donc ça a été montré qu'en effet, ça a un intérêt de prendre des probiotiques pendant la période de l'antibiotique pour essayer d'éviter finalement une destruction trop importante des bactéries intestinales.
Cette exposition au microbiote, elle est extrêmement ludique, Dorothée Vatinel, à partir de 10 ans, qui permet de repartir aujourd'hui avec quelle certitude pour vous qu'il avait exploré de long en large?
C'est une jolie question. La certitude qu'il faut prendre soin de ces micro-organismes qui vivent en nous et qui sont partie prenante de notre identité biologique. Nous, on ne parle pas tellement de pathologie dans l'exposition parce que l'idée, c'est surtout d'expliquer le rôle de ce microbiote, sa composition et comment bien l'entretenir, comment être en bonne santé. C'est vraiment une expression de santé publique. Donc pour rejoindre ce que disait Francisca à l'instant, moi j'ai trouvé ça fascinant de me dire, bah voilà, j'ai des micro-organismes en moi, donc on va parler surtout des bactéries. Pour les entretenir, j'ai deux choix. Soit je peux ajouter des bactéries vivantes, c'est ce que vous disiez, avec les probiotiques. Donc le temps, par exemple, en mangeant des plats fermentés, hein, très pratiquement.
Par exemple, le plat fermenté,
je sais pas, de la choucroute, d'accord, tout ce qui est boisson kéfir, fermentée, voilà. Donc là, vous avalez des bactéries vivantes, comme si on reprend la métaphore du jardin, comme si vous mettiez des plantes vivantes dans votre terre de jardin,
pour diversifier
votre jardin. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est sinon apporter des aliments qui vont nourrir vos bactéries. Et ça, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Donc, ce sont les fibres alimentaires. Mmh. Et si on reprend la métaphore du jardin, c'est comme si vous mettiez du terreau un petit peu.
Voilà.
Donc,
et quand on y mangeait des fibres, c'est bien pour ça aussi, c'est pas juste pour la coquetterie.
Et par exemple, manger des fibres, on peut l'entendre régulièrement, mais on ne sait pas toujours où elles sont, les fibres. Donc par exemple, dans l'exposition, on a un élément d'exposition qui marche très bien, du reste, où on demande aux visiteurs, il est recommandé de manger 30 grammes de fibres par jour pour bien entretenir votre microbiote. Mais où sont-elles, ces fibres? Donc vous avez une trentaine d'éléments, une quarantaine d'éléments, et vous devez les choisir en fonction de votre goût, hein, parce que l'idée aussi, c'est de se faire plaisir, on n'est pas obligé de se punir pour se faire du bien. Et donc, vous avez donc des framboises, des asperges, des légumes, des pâtes complètes, du pain complet, des choses comme ça. Et au fur et à mesure que vous mangez, vous voyez, par exemple, la quantité, si vous atteignez votre quantité de 30 grammes par jour. Et honnêtement, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste le savoir, en fait.
Ouais, donc je retiens en tout cas que la choucroute réalimente la vie aussi de notre intestin aujourd'hui.
Mais je crois que c'est un élément très important. C'est-à-dire que avant de penser médicaments, bactéries dans des gélules, c'est vrai que l'alimentation, en fait, déjà, c'est notre premier remède. C'est notre premier remède en termes de prévention, puisque finalement, il y a les probiotiques naturels, ils sont dans l'alimentation.
D'où diversification de l'alimentation pour les petits,
absolument,
que vous préconisez.
Et ces fameux prébiotiques aussi qui vont aller même nourrir ces bactéries, en fait, c'est dans l'alimentation. Et donc, c'est vraiment un enjeu majeur. Et je pense que dans cette exposition, justement, vous avez tous ces éléments-là pour comprendre. Et on se rend compte que les enfants comprennent, sont très attentifs à ça. Hein. Ils adorent toucher, comprendre et voir que finalement, c'est les fibres, c'est pas que les haricots verts, et qu'on peut en trouver dans d'autres choses colorées qui sont très bonnes.
Alors justement, toucher, comprendre, mettre les mains un petit peu partout. On va parler de l'hygiénisme dans un instant parce que ça tue aussi parfois notre microbiote. Sans qu'on le sache, un trop plein d'hygiène n'est pas forcément une bonne chose. Francisca Joly-Gomez, Dorothée Vatinel, on revient et on explore notre intestin, deuxième cerveau, on va vous dire pourquoi dans un instant. À tout de suite.
Avoir le ventre noué, se mettre la rate au courbouillon, se faire de la bile. Bien avant que la réalité scientifique ne leur donne raison, les expressions populaires mettaient en avant le lien étroit entre notre ventre et nos émotions. Le ventre, notre deuxième cerveau,
le réceptacle de nos émotions. On y vient maintenant, alors qu'une exposition microbiote se tient à la Cité des Sciences et qu'elle éclaire de manière absolument passionnante ce qui se passe dans nos entrailles et dans nos tripes, finalement. Nous sommes avec Dorothée Vatinel, commissaire de cette expo microbiote, avec Francisca Joly-Gomez, qui est gastro-entérologue, professeur en nutrition et auteur de L'intestin, notre deuxième cerveau, justement. Comment comprendre son rôle? C'est vrai, Francisca, que par exemple, il y a une pathologie qui s'appelle le syndrome de l'intestin irritable. Irritable comme si on l'avait maltraité, quoi. Comme s'il était en colère par rapport à tout ce qu'il avait reçu de l'extérieur. C'est pas pour rien qu'il y a ce qualificatif. C'est un petit peu lié justement au fait qu'il y a 200 millions de neurones dans notre intestin.
Oui, c'est une très bonne remarque, en fait, de dire que ce mot syndrome de l'intestin irritable, quelque part, ça nous parle, en fait. Mais il faut savoir qu'avant, on parlait de colopathie, en fait, colopathie fonctionnelle. Et là, finalement, les patients qui souffraient de cette maladie-là avaient un statut presque de... On dit, ouais, ils sont colopathes. On les regardait un peu bizarrement en disant, tout ça, c'est dans la tête. Aujourd'hui, on sait que c'est une vraie maladie. C'est une maladie qui entraîne des douleurs, des troubles du transit. C'est une maladie chronique. et qui impacte énormément la qualité de vie des patients. Et donc le mot syndrome de l'intestin irritable vraiment correspond à ce que peuvent vivre ces patients. On connaît de mieux en mieux la physiopathologie de cette maladie qui est extrêmement complexe. Il y a des modifications du microbiote, il y a probablement aussi des modifications de la motricité des neurones et de ce dialogue finalement entre microbiote, intestin et cerveau qui fait qu'il y a une hypersensibilité viscérale. Et il faut savoir que c'est une grande partie de la population, on parle de 5 à 10% de la population. Donc autour de nous, il y a forcément quelqu'un qui souffre de cette maladie, qui est vécu difficilement parce que pendant longtemps, les médecins l'ont considéré un peu de côté parce que finalement, on n'a pas vraiment de thérapeutique très efficace.
Mais par exemple, quand ça nous est tous arrivé d'avoir un mal de ventre soudain lié au stress, à une émotion, comment ça fonctionne ? Quel est le circuit là, entre le cerveau et les intestins ?
Alors, quand on a un stress important, une émission de radio, on va avoir des signaux qui viennent de notre cerveau, clairement, et qui vont venir communiquer par ce qu'on appelle le système sympathique-parasympathique. Il faut imaginer, on a un grand nerf qui part du cerveau et qui va communiquer avec différents organes, le cœur, l'estomac, l'intestin. Et ce qui explique que quand on est stressé, on peut avoir l'estomac qui se serre ou le cœur qui bat un peu plus vite parce qu'on a vraiment une communication
des émotions.
Ce qui est nouveau et ce qui est plus difficile à objectiver, c'est est-ce que ça pourrait pas venir aussi du ventre? C'est-à-dire que tout d'un coup, une modification de ces bactéries intestinales et donc de la communication entre ces bactéries et les neurones de l'intestin ne pourrait pas engendrer des signaux au niveau du cerveau et donc entraîner un peu plus d'anxiété, un peu plus de dépression. Et donc, vous voyez, comme la communication elle est dans les deux sens, de se dire peut-être qu'il y a aussi des maladies qui pourraient venir de l'intestin ou en tout cas qui pourraient être pérennisées par l'intestin.
Mais des maladies ou des troubles qui influent aussi sur notre morale. Quand on est une personne qu'elle est constipée, il y a le sens propre et le sens figuré
bien
aussi.
Sûr,
ça joue vraiment, quoi.
Ça joue vraiment et c'est des axes de recherche maintenant qui sont très importants.
Que vous prenez au sérieux, vous, vraiment.
Et qu'on prend au sérieux. La difficulté, c'est qu'on est à un stade où on commence à comprendre des choses et hélas, on va pas assez vite pour les gens qui souffrent, en fait. On a des patients en consultation qui viennent et qui nous disent « Mais en fait, moi, je suis persuadée que ça vient du ventre, que mon mal-être, que mes problèmes de peau, que mes problèmes articulaires, ils viennent du ventre. »
Et ça, c'est possible ?
C'est possible, en fait. C'est possible, mais en fait, aujourd'hui, encore faut-il le démontrer et surtout, quel traitement on peut proposer ? Puisque modifier un microbiote, oui, on pourrait à l'extrême le modifier, mais pas forcément le modifier au long cours. Et qu'est-ce que ça peut entraîner vraiment ?
De toute façon, oui. Alors là, il y a l'aspect médical qui est passionnant et scientifique. Et il y a votre approche grand public pour une exposition que vous souhaitez de santé publique, finalement, Dorothée Vatinel, à la Cité des sciences microbiote en ce moment.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas tomber malade avec cette exposition en prenant soin de notre microbiote. Si on tombe malade, on ira voir Francesca, entre autres. Mais non, l'idée, oui, c'est vraiment de... En fait, on s'aperçoit que ça n'a pas l'air si compliqué que ça de prendre soin de son microbiote. On parlait tout à l'heure de l'alimentation. En effet, plutôt qu'avant de prendre des probiotiques en pharmacie, on peut déjà manger une alimentation avec des probiotiques et puis aussi des prébiotiques. Mais c'est aussi, un comportement de vie quotidienne, ne pas passer de l'eau de Javel exagérément dans toutes les pièces en permanence, ne pas... tomber des nues dès que son enfant met la main.
Comment ça se retrouve ça dans l'intestin ? C'est quoi le lien entre l'hygiénisme à la maison et la manière dont notre corps peut réagir ?
C'est la chasse aux bactéries, tout simplement.
Ah, finalement, vivre avec ces bactéries.
Mais oui, les bactéries que vous avez en vous, beaucoup viennent de l'extérieur. Donc si vous chassez les bactéries de l'extérieur, elles ne viennent plus chez vous.
Or, on a besoin de ces bactéries pour un microbiote équilibré. Hein. C'est aussi
voilà,
la leçon
en fait, un microbiote équilibré, c'est ce que disait Francesca, c'est un microbiote diversifié et aussi en quantité. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de nombreuses bactéries différentes. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet barrière, c'est-à-dire que le fait que toutes ces bactéries tapissent votre intestin, ça, en simplifiant un peu les choses, ça fait qu'il n'y a pas de place pour les mauvaises bactéries.
Donc voilà, vous expliquez aussi qu'on doit tenir une maison propre, mais attention à l'excès.
L'hygiène, oui, pas l'hygiénisme. Évidemment, il faut se laver les mains quand on est avec une personne malade, mais il ne faut
pas... On peut laver les tétines des bébés quand même, Francesca.
Alors oui, faut laver les tétines de bébé. Maintenant, on ne va pas aller forcément les tremper et les stériliser.
Oui.
Je pense que c'est très important, comme disait Dorothée, cette notion de ne pas confondre hygiène et hygiénisme, c'est-à-dire le trop. Et probablement que dans nos sociétés, on voit l'émergence de certaines maladies qui augmentent parce que on vit de manière presque trop protégée, trop propre. On disait tout à l'heure, tout se joue finalement entre 0 et 4 ans. Si un enfant a été très exposé aux antibiotiques parce qu'on avait tellement peur qu'il tombe malade ou qu'il est finalement très protégé du milieu naturel, de pas toucher les autres. Alors bon, en crèche, on est assez tranquille, hein, les enfants, ils sont en contact avec tous les autres. Et bien en fait, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, il va attraper les bactéries des autres copains.
Merci, on se retrouve dans un instant pour parler des microbiotes, un certain nombre de mystères encore autour de nos intestins avec nos invités et cette grande expo à la Cité des Sciences en ce moment pour les Parisiens. À tout de suite.
Wendy Bouchard et ses invités reviennent sur l'intestin et ses mystères. Nous sommes avec Dorothée Vatinelle, qui est commissaire de l'expo Microbiote à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, c'est jusqu'au 4 août. Et Francisca Joly-Gomez, gastro-entérologue, professeure en nutrition à l'Université Paris 7 Denis Diderot et auteure de 2 livres à recommander sur le sujet, l'intestin, notre deuxième cerveau, comprendre son rôle et bien nourrir notre intestin, les deux chez Marabout.
Et je sais que vous allez vous précipiter sur ces ouvrages si le sujet vous intéresse et si vous ne passez pas à Paris. L'avantage, Dorothée Vatinelle, c'est que vous êtes aussi vous inspirée du best-seller dont on parlait, Le charme discret de l'intestin, avec une collaboration très, très clairement évoquée d'ailleurs dans cette exposition avec les auteurs.
Oui, oui, tout à fait. On a travaillé avec Julia Enders, donc, qui est cette jeune femme médecin allemande qui a écrit ce livre, qu'elle a écrit avec sa sœur Jill Enders, qui n'est pas du tout scientifique et qui, en fait, lui disait « ben, je comprends pas ce que tu me dis, recommence ». Et donc, c'est vraiment ensemble qu'elles ont construit ce livre et Jill a fait les illustrations. Alors, les illustrations peuvent paraître parfois enfantines. Oui. En fait, elles sont pour nous vraiment un support de vulgarisation scientifique. Et comme ce livre, je l'appelle, il a une espièglerie scientifique, je voulais absolument garder cette espièglerie scientifique dans l'exposition et donc je leur ai demandé de travailler avec nous.
Oui, beaucoup d'humour et ça égrène aussi le parcours de l'expo.
D'abord, on a bien rigolé pour le faire, on a appris beaucoup de choses et l'idée c'est vraiment de à la Cité des Sciences, c'est apprendre en s'amusant, mais là c'est vraiment ça et c'est vraiment une exposition qu'on peut visiter donc avec des enfants mais pas trop petits c'est assez compliqué quand même le sujet il est complexe, mais aussi entre adultes, les seniors, enfin vraiment on a ouvert depuis le 4 décembre, je vois vraiment une diversité de public formidable, beaucoup de scolaires aussi puisque c'est au programme des cours de SVT au collège.
Très bien.
Et donc parallèlement à l'exposition, nous avons des animations pour exprès le public.
Intestin, nous sommes tous concernés, évidemment, Francisca Joly-Gomez. Et si vous nous rejoignez, je vous précise que nous avons 200 millions de neurones dans nos intestins. Il n'y a pas que cette microbiote, cet écosystème assez impressionnant. Ça veut dire que notre intestin sait réfléchir à certains égards. Et réfléchir à quoi ?
Ça, c'est une question difficile. Je pense que on s'en rend pas forcément compte, on est dans l'ordre de l'inconscient, mais en tout cas, il nous aide. Probablement qu'il nous aide, il participe à sans qu'on s'en rende compte, peut-être à notre humeur, à notre capacité d'appréhender les choses. C'est assez étonnant de voir que des chercheurs s'intéressent, par exemple, à l'anxiété, et on voit que le microbiote peut être modifié chez des patients anxieux. Donc, il y a quelque chose aussi, probablement, qu'on connaît moins bien, puisque la difficulté, c'est que on a du mal à le contrôler, cet intestin. C'est-à-dire que si vous dites là, je veux contrôler, mais en fait, cérébralement, vous allez avoir du mal à dire là, je veux qu'il arrête de bouger.
Oui.
Non. Donc, c'est pour ça qu'on est en difficulté quand on a mal au ventre. On se dit, mais comment je vais faire pour aller mieux ? Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, et ça vient plus des patients qui nous le disent, ce ventre a un rôle majeur et probablement dans d'autres choses que des maladies la maladie. Il y a aussi peut-être le bien-être, la bonne santé psychique.
Dominique nous écrit de Savonnières. J'ai subi une coloscopie il y a 2 ans. J'ai réglé tous mes problèmes grâce aux graines de kéfir, qui est un probiotique naturel, hein, Francesca.
Oui, tout à l'heure, on parlait justement de ces probiotiques qu'on trouve dans l'alimentation. Le kéfir fait partie, en fait, d'un probiotique naturel. Et c'est vrai que des personnes cultivent même leur kéfir, en fait.
Christine a 60 ans, elle est à Pontoise et sa fille de 16 ans a beaucoup de gaz. Que faire pour les diminuer? Est-ce qu'il y a une alimentation à privilégier aujourd'hui?
Alors déjà, il faut savoir que c'est naturel d'avoir des gaz. Mmh. Hein, on en produit, pour certains, plusieurs litres par jour. On ne s'en rend pas compte, mais c'est naturel, c'est le fonctionnement physiologique, en fait, de notre intestin. Donc, faut savoir aussi le respecter. Alors, pour certaines personnes, ça peut devenir inconfortable, voire douloureux. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut éventuellement consulter, où on peut être aidé par des diététiciens aussi, puisque dans les aliments, il y a des fibres qui sont évidemment indispensables pour nourrir notre microbiote, mais qui sont plus ou moins productrices, fermentescibles. Donc, dans l'alimentation, on peut être aidé. Il y a des choses qui font produire plus ou moins de gaz. Mais il faut respecter aussi ça, puisque c'est aussi notre fonctionnement naturel.
Gastro-entérologue que vous êtes, Francesca Joly-Gomez, vous nous parlerez de l'évolution de votre métier sur ces 10 dernières années, justement. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus à l'écoute, j'allais dire psychologiquement, de vos patients qui eux-mêmes sont mieux informés sur les charmes discrets de l'intestin? On fait encore quelques minutes ensemble le tour de cette question. Merci d'être avec nous, chers amis, et n'hésitez pas à réagir comme Christine et Dominique. Et un instant, à tout de suite avec Julie.
Europe 1.
Suite et fin de notre exploration du ventre ce matin avec Wendy Bouchard et ses invités.
Mes invités, Dorothée Vatinel, commissaire de l'expo Microbiote à la Cité des Sciences jusqu'au 4 août, Francesca Joly-Gomez, qui est gastro-entérologue et qui a publié L'intestin, notre deuxième cerveau, bien comprendre son rôle et bien nourrir notre intestin, c'est aux éditions Marabout. Petit message de Caroline sur Twitter, hashtag Europe 1. C'est fascinant cette heure d'émission, c'est multifacette, intelligent, à la portée de tous. L'exposition à la Cité des Sciences doit être passionnante à découvrir. Nous avons également un message pour vous, Francesca Joly-Gomez, de GDS Paul. Moi, j'ai une maladie de Crohn, dit cet auditeur. Je ne peux pas manger n'importe quoi. On ne parle pas assez de cette maladie qui, pour le coup, détruit les intestins. Comment ça se passe, la maladie de Crohn?
Alors, je suis d'accord avec lui. On n'en parle pas beaucoup, alors que c'est une maladie qui est de plus en plus fréquente. C'est une maladie chronique. Mmh. En fait, il y a une prédisposition génétique.
D'accord.
Et on voit que dans cette maladie, il y a aussi des modifications du microbiote avec une bactérie notamment qui semble manquante. Elle peut atteindre n'importe quelle partie du tube digestif, ça peut, de la bouche à l'anus. Mmh. Le plus souvent, ça reste quand même la partie terminale du grêle et le côlon. Et parfois, on est amené à opérer et à retirer une partie de l'intestin qui est très abîmée par de l'inflammation. Donc, il y a des poussées inflammatoires. Aujourd'hui, on a des traitements pour essayer de diminuer les poussées, donc le risque de récidive de ces poussées, mais on n'a pas de traitement qui guérisse. Et c'est une maladie donc, qui peut impacter énormément la qualité de vie des patients et qui commence de plus en plus jeune. On a des enfants, chose qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, on a de plus en plus de jeunes qui sont atteints par cette maladie.
On parlait hors antenne des réactions du corps face à certaines agressions extérieures alimentaires, notamment le fait de vomir, Dorothée Vatinel. Ça, vous en parlez aussi dans l'exposition. Ça fait partie du comportement des organes pour se défendre.
Oui, on ne s'en prive pas. On peut même comparer un vomi qui sort de l'estomac avec un vomi qui sort de l'intestin, parce que les petits morceaux sont
On vomira donc plus intelligent demain.
Voilà, comme ça, la prochaine fois que vous vomirez, vous regarderez votre vomi, vous saurez si ça vient de l'estomac ou si ça vient de l'intestin. Ce qui est quand même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est surtout de dire que vomir, c'est se protéger et qu'il y a des espèces animales qui ne peuvent pas vomir et qui meurent du coup parce qu'ils ne peuvent pas se protéger.
Oui, donc il faut aussi analyser le pourquoi du comment aussi on vomit. Voilà, agression urgente d'un aliment.
Absolument. En fait, quand on a l'exemple typique, c'est l'intoxication alimentaire. On va à un restaurant ou quelque part et finalement, il y a un aliment qui contient un pathogène. Et en fait, le tube digestif va le reconnaître tout de suite et va essayer de s'en débarrasser. Et s'en débarrasser, il va faire comment? Il y a les vomissements, il y a l'accélération du transit avec la diarrhée. Mmh. Et très souvent, ça dure quelques heures. Et puis, ça passe.
Le corps humain est bien fait. C'est une réaction de défense, on le redit, qui n'altère pas pour le coup la flore intestinale, le microbiote dont on parle.
Quand c'est très aigu comme ça, finalement, c'est quelque chose en effet de réflexe quasiment qui va faire en sorte faire sortir cette bactérie ou ces toxines. Maintenant, ce qui doit nous alerter, c'est si ça, il y a répétition, si les vomissements sont de plus en plus fréquents ou une diarrhée chronique. Mmh. Là, ce n'est pas normal. Mais le fait d'avoir un épisode aigu, au contraire, finalement, c'est un signe de bonne santé.
On parle de notre intestin depuis 10 heures. Pourquoi l'appelle-t-on notre deuxième cerveau ? Vous pratiquez depuis combien de temps comme gastro-entérologue, Francisca Joly-Gomez ?
2001.
Oui, petite quinzaine d'années. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui le comportement des patients mieux informés changer aussi ? Est-ce qu'ils ont besoin non seulement de l'écoute du gastro-entérologue, mais d'une écoute un peu plus psychologique sur leurs maux de ventre en particulier ?
Je pense que de plus en plus, les patients ont besoin de la part du médecin, d'une vision plus holistique. Mmh. C'est-à-dire qu'on a beaucoup... séparer les organes et on a des spécialistes d'organes. Il y a le gastro-entérologue, le cardiologue, le neurologue.
Mmh. Il y a des neuro-gastro-entérologues.
Absolument.
Existe, hein.
Donc on est dans des niches et des super niches. Mais en fait, le patient, il a besoin qu'on s'occupe de lui dans son ensemble et qu'un gastro-entérologue soit capable aussi de lui parler d'alimentation. Mmh. Et je pense que le microbiote et toute la recherche qui a été faite dessus nous apprend à beaucoup d'humilité. Et justement, et à se dire, en fait, en tant que spécialiste d'organes, je dois essayer d'avoir une approche beaucoup plus globale et de m'intéresser, en effet, à l'ensemble des symptômes, puisqu'ils peuvent être liés.
Voilà ce que vous avez fait pendant une heure, mesdames. Merci beaucoup pour votre expertise très accessible. Francisca Joly-Gomez, gastro-entérologue. Je redonne votre livre, L'intestin, notre deuxième cerveau, aux éditions Marabout, pour comprendre son rôle et pour comprendre de manière ludique, intelligente, comme vous le faites à chaque fois à la Cité des Sciences, Dorothée Vatinel, cette exposition Microbiote avec des familles qui s'y pressent.
Oui,
c'est bientôt les vacances de Noël. Donc
exactement, venez, vous êtes les bienvenus.
Merci Dorothée, merci ma chère Julie. On se retrouve demain.
À demain, bien sûr. Wendy Bouchard, 9h-11h sur Europe 1. Dans un instant, Anne Roumanoff. On a fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.